Intervention de David Chantranne, rédacteur en chef de Napoléon Ier, revue du souvenir napoléonien. Intervention consacrée aux derniers jours de Napoléon.
Après cette très belle présentation par Anna Morette des relations entre Dostoïevski et Napoléon, je vous propose dans ce thème qui nous est proposé cette année, et je remercie encore effectivement comme Anna et tous les intervenants de ces trois journées, tous les organisateurs, à commencer par Bertrand bien évidemment, avec qui j'ai encore eu le plaisir de partager le retour entre Ajaccio et Sartène, la municipalité évidemment de la ville, mais également tous nos amis, à commencer par Olivier, Michel... Je remercie également, évidemment, Bernard Jovanangel qui a publié les actes de l'an dernier. Et je voudrais vous proposer, dans le thème qui nous est imparti et qui nous est proposé cette année, de l'héritage de Napoléon, de nous intéresser peut-être à ses héritages, à lui. Non pas ce qu'il nous a légué, mais quels ont été ses héritages personnels. Comment lui-même s'est emparé des héritages successifs qui ont été ceux de sa famille et peut-être même de ses pensées intimes. Et pour ce faire, je vous propose de faire un bond en avant, bien évidemment, et de commencer peut-être par la fin, comme vous l'a d'ailleurs proposé avec beaucoup de talent notre ami Jean-François Coulon, avec lequel nous avons publié ce très beau livre dont il vous a parlé, « Napoléon, les derniers témoins racontent », où sont rassemblés, sur près de 600 pages, tous les textes des témoins qui ont accompagné donc Napoléon, de près ou de loin, ou qui ont évoqué ces moments si importants. Si l'on devait d'ailleurs justement résumer en 6 dates les derniers jours de Napoléon, il serait très simple. 15 octobre 1815, arrivée de l'empereur au large de Sainte-Hélène. Le premier mot qu'il prononce, ses premiers mots sont très simples également. En voyant l'île de Sainte-Hélène, il s'exprime ainsi « Ce n'est pas un joli séjour. Je m'y ai fait de rester en Égypte, je serai à présent empereur de tout l'Orient. » Deuxième date importante, c'est le 11 décembre 1815. Napoléon s'installe, il le sait maintenant, définitivement à Longwood. Il a auparavant été accueilli par la famille Balcombe, cet administrateur de la Compagnie des Indes, avec bien entendu les espiègleries de Betsy qui vont le divertir. 16 avril 1816, évidemment, arrivée de Hudson Law. 31 décembre de cette même année 1816, départ de l'homme qui devait être justement son historiographe, son scribe moderne, évidemment, Lascaz, avec son fils Emmanuel, qui le suit comme son ombre. Deux dernières dates pour terminer. 19 septembre 1819, c'est l'arrivée de ce qu'on a appelé la petite caravane. Et parmi cette petite caravane, eh bien, on compte 3 Corses qui compteront évidemment dans la fin de la vie de Napoléon. Le docteur Antomarchi et les 2 aumôniers, Bonavita et Vignali. Enfin, pour terminer, 5 mai 1821, la mort de l'empereur, qui, vous le savez, ne marque pas la fin d'un épisode, mais bien au contraire, le début. Mais si on ne devait retenir qu'une seule date, parmi toutes celles que je vais vous évoquer, eh bien c'est surtout celle du 10 avril 1821. Parce que l'empereur, à ce moment-là, alors qu'il est encore lucide et que la maladie n'a pas encore fait son œuvre, l'empereur est en train de réfléchir à ce qu'il va laisser à la postérité. Et lui reviennent en mémoire justement ses héritages successifs qui ont été les siens de sa jeunesse en Corse jusqu'à ce dernier exil de Sainte-Hélène. Et le 10 avril 1821, Montholon écrit « L'empereur m'a parlé aujourd'hui de son testament. J'ai cherché à lui donner l'espoir que ce serait une précaution inutile. » Mais il a persisté et m'a dit « Je l'écrirai demain si le mieux continue. » Et c'est ce qu'il fait. Qu'inscrit-il dans ce testament et dans les codicilles successifs? Eh bien, il inscrit en creux, parce que ce n'est pas ce que je vais vous lire, mais en creux, ce qu'il laisse à la postérité, c'est de rappeler les 3 types d'héritages qui ont été les siens de sa jeunesse, justement, jusqu'à l'apothéose, qui est un peu formé par le sacre du 2 décembre 1804. Le premier de ces héritages, c'est un héritage familial, bien sûr. Héritage familial ô combien important. La généalogie des Bonaparte. Il la porte, il la transporte avec lui, et il l'emmène quasiment dans ses bagages lorsqu'il part vers le continent alors qu'il n'a encore que 9 ans et demi. Ses origines italiennes. Ce nom Bonaparte, du bon parti, si l'on peut dire, même si l'on sait que ce terme est un peu galvaudé et que si l'explication est un peu facile. Mais au-delà de cela, il porte en lui ces germes italianisantes qu'il conservera d'ailleurs toute sa vie durant, ou parfois il continuera de confondre dans la langue française, ce qui peut parfois poser des problèmes dans son métier à lui, armistice et amnistie. Je vous laisse évidemment imaginer ce que ça peut comporter comme problème avec vos adversaires. Mais surtout, Sartène, qu'il emmène avec lui également dans ses bagages et dont il garde un souvenir ému. Chose plus importante peut-être, son prénom, Napoléone. Lorsque vous arrivez à Brienne et que vous avez seulement 9 ans et demi, le 15 mai 1779, vous faites forcément, vous êtes l'objet des railleries de vos camarades et certains vous accueillent en vous disant « vous avez la peau olivâtre, vous avez un accent différent, vous avez une culture différente ». Eh bien, de ce prénom surtout, Napoléon, il le porte en bandoulière et il l'affiche haut et fier comme un étendard en montrant justement que ce prénom qui lui était destiné et qu'il porte parce que un de ses grands-oncles est décédé juste avant sa naissance, il sera justement ce prénom, sa fierté, toute sa vie durant. Le clan Bonaparte, voilà un héritage familial. Bien entendu, les esprits chagrins, toutes les critiques qu'on a pu entendre encore à l'occasion de ce bicentenaire ont rappelé que Napoléon avait fait des erreurs, évidemment, et que parmi ses plus grandes erreurs, c'était de s'entourer de sa famille. Mais lui avait l'attachement chevillé au corps. Et c'est à sa chance familiale que, comme on le dit souvent, les continentaux considèrent comme étant le clan Bonaparte. Lui, au contraire, le considère comme une richesse. Lorsqu'il part à l'île d'Elbe en 1814, qui est à ses côtés ? Laetitia et Pauline. Il a beau attendre des heures et des heures, des jours et des jours, que Marie-Louise, que le roi de Rome arrive à ses côtés. Il ne verra finalement au loin qu'apparaître Marie Walewska, qui est une très jolie compagne, si l'on peut dire évidemment, mais qui ne remplace pas évidemment celle qu'il attend depuis tant. Et puis dernier élément, ou du moins un double élément dans cet attachement et cet héritage familial, c'est tout d'abord la religion que lui a inculquée Madame Mère avec tant de précision que lorsqu'il meurt justement, il indique dans son testament « Je meurs dans la religion apostolique et romaine ». Et il l'assume alors qu'on lui avait prêté toutes les intentions et que lui-même parfois s'était laissé emporter en disant que s'il fallait devenir protestant, il l'aurait été, que s'il fallait devenir juif, il l'aurait été, et qu'il aurait même relevé le temple de Salomon. Mais il meurt dans la religion apostolique et romaine, avec parfois quelques formes de paganisme que lui a inculqué justement Madame Mère. Rappelez-vous quand il évoque la bonne étoile, c'est à elle qu'il fait allusion directement. Enfin, dernier élément de cet héritage familial, c'est son goût artistique classique. On sait que Napoléon n'était pas forcément d'une grande culture, peinture, sculpture, architecture, et pourtant, quel goût très sûr. Promenez-vous dans Paris. Promenez-vous également à Pontivy, à La Roche-sur-Yon, ces villes ex nihilo, sorties de terre, qu'il a voulu à l'égal de ce qu'avaient fait autrefois les Romains. Il l'a voulu ainsi. Il a rendu visite, en particulier à La Roche-sur-Yon, pour demander que l'action qui soit entreprise aille au bout comme autrefois les empereurs romains l'avaient voulu. Voilà donc pour l'héritage familial. Il en est un second, ou du moins un deuxième, puisque nous en aurons trois, qui, me semble-t-il, n'est pas évoqué et qui mérite de l'être. J'allais presque dire, c'est le rôle d'un continental de mettre les pieds dans le plat, c'est l'héritage paoliste. J'entends la foule qui bruisse. Je naquis quand la patrie périssait. 30 000 Français vomis sur nos côtes. Noyant le trône de la liberté dans les flots de sang, tel fut le spectacle odieux qui vint le premier frapper mes regards. Les cris du mourant, les gémissements de l'opprimé, les larmes du désespoir environnèrent mon berceau dès ma naissance. Alors vous allez me dire, c'est cela qu'il retient de l'épisode paoliste ? Pas du tout. Bien au contraire, même si cette lettre est datée de 1789, il a donc à peine 20 ans, il entend Paoli comme un appel à la liberté. Et lorsque les deux hommes se rencontreront, vous le savez, quand il y a un marigot et qu'il y a deux crocodiles dans le même, il est difficile de les faire agir de conserve. Pourtant, il va conserver pour Paoli non seulement une affection, même si l'on sait que la mission de la Maddalena échouera terriblement et que lorsqu'il écrira à la Convention pour demander que, je cite, « les lâches et les traîtres soient punis », tout le monde aura compris qu'il parle non seulement de Colonna César, le neveu de Pascal Paoli, qu'il a laissé paître sur l'îlot San Stefano avec la fauvette qui s'est échappée de l'autre côté pour entrer à Bonifacio, mais surtout, le traître, c'est Pascal Paoli. Alors, d'une certaine manière, n'a-t-il pas voulu aller au-delà et finalement faire mourir le père, comme lui imposait une certaine tradition ? Eh bien, ce rêve du retour de l'exilé, Napoléon ne va jamais l'oublier. C'est ça, rappelez-vous, mesdames et messieurs, lorsqu'il est à Brienne, dans sa petite cellule de 4 mètres carrés. C'est à cela qu'il songe. Et c'est parce qu'il pense à sa Corse natale et parce qu'il pense à Paoli que cet exemple lui sert pour tenir par le terrible froid des 7 degrés de sa petite cellule de Brienne en Champagne. Autre élément, l'affront initial de Ponte Novo. Quel est le premier événement qu'il demande à ce qu'on l'en reproduise par le tableau qui évoque les débuts de sa campagne victorieuse en Italie ? Ça n'est pas l'Audi, dont on sait qu'elle a surtout une importance stratégique et qui lui a permis de devenir, vous le savez, le fameux petit caporal de ses armées. Cet homme qui était au milieu de ces, justement de ses soldats qui partageaient leurs souffrances. À l'Audi, il le dit, je me vis dans l'histoire. Non, ça n'est pas l'Audi qu'il demande à reproduire sur la toile. Il intime l'ordre à Antoine Jean Gros de représenter le passage du pont d'Arcole. Un pont. Ponte Novo. C'est ça l'héritage paoliste. Il efface l'humiliation suprême parce qu'il a décidé que c'était ainsi que devait s'écrire justement l'histoire, celle qui déterminera justement son image à travers les siècles. Ces liens entretenus avec Paoli, on le sait, seront ténus et difficiles ensuite à maintenir. Mais Maria Cosue sert d'intermédiaire. Et dans les correspondances que l'on peut retrouver, on sait que Napoléon veille justement à ce que le glorieux ancien soit entre de bonnes mains lorsqu'il est en Angleterre. On sait que les deux hommes, maintenant, sont frappés, et de l'un, d'un destin qui va s'achever dramatiquement, et pour l'autre, d'un destin qui le deviendra ensuite, après 1815. Mais d'une certaine manière, ils sont exilés et le resteront jusqu'au bout. Deux derniers éléments sur cet héritage paoliste. Deux créations pérennes. Si l'on vous demande ce qui reste de l'héritage napoléonien aujourd'hui, vous allez tous me citer la Légion d'honneur, les préfectures, le baccalauréat, les lycées, le code civil, le cadastre, les prud'hommes. Bref, la soirée serait trop longue pour égrener cette litanie. Songez à deux créations ex nihilo, parties de rien, que Napoléon impose à partir de 1800 pour l'une, et qui aboutira en 1803, et pour l'autre en 1806. Je ne fais pas d'interrogation, je ne ramasserai pas les copies, rassurez-vous. Que reste-t-il encore aujourd'hui de Napoléon ? Je vous ai cité, mais certaines ont été agrémentées, notamment le code civil. Et d'ailleurs, Napoléon lui-même le dira à Sainte-Hélène, des 40 batailles que j'ai composées, Waterloo effacera tout. Ce qui restera éternellement, c'est le code civil. Pourtant, il a tort. Deux créations stratégiques, et notamment géostratégiques, continuent d'exister aujourd'hui. Ces deux créations, c'est tout d'abord la Confédération du Rhin, qui est devenue aujourd'hui notre Allemagne actuelle, avec ses Länder, et celle qui lui précède en 1803 avec le Landamman, c'est la Confédération helvétique. Intéressant, deux confédérations pour quelqu'un qui se disait jacobin et qui n'aimait qu'une seule chose, c'est-à-dire le centralisme à la Louis XIV, teinté de robespierrisme. Cette Confédération du Rhin et cette Confédération helvétique qui continue d'exister, n'y retrouvez-vous pas un petit peu des piévés de Paoli ? Et que ce protecteur qu'était Napoléon, n'est-ce pas d'une certaine manière l'ombre du babou qui se pose sur ces deux créations ? Enfin, pour terminer cet héritage paoliste, je laisse à votre appréciation la fameuse phrase que Napoléon propose et prononce devant son frère Joseph au matin du 2 décembre 1804, lorsqu'il s'habille et qu'il se présente ensuite à la fin de la matinée dans la cathédrale métropolitaine Notre-Dame de Paris. Napoléon, selon certains témoins, se serait retourné vers son frère et, sans doute, s'agit-il du seul moment où il se serait exprimé en Corse. Il se serait tourné donc vers Joseph en lui disant « Ah, Giuseppe, si babu ci vedia. Ah, Joseph, si notre père nous voyait. » Mais à quel père fait-il allusion? À Carlo Maria, auquel tout le monde a pensé quand on évoque évidemment le père. Mais c'est le babu. À quel babu? Met-il une minuscule ou une majuscule? Et pense-t-il justement que l'affront fait aux Corses, c'est finalement maintenant qu'un Corse est entré parmi eux? Et il le dira d'ailleurs au soir du sacre, il dira « Les monarchies et les monarques des Europes coalisées avaient vu qu'un Corse s'était ainsi au milieu d'eux, et à partir de ce moment-là, ils n'eurent qu'une seule volonté, le faire descendre de son piédestal. » Enfin, pour terminer, dernier héritage, peut-être le plus évident sans doute, et les derniers jours de Napoléon les évoquent, lorsqu'il se retrouve avec Lascaz, lorsqu'il se retrouve avec Montholon, lorsqu'il se retrouve surtout avec Bertrand, relisez les carnets du grand maréchal Bertrand qui sont passionnants, il évoque à différentes reprises, il évoque avec Lascaz, Montholon, Gourgaud et Bertrand, il évoque aussi son insularité. Alors, cette insularité, ça n'est pas, si vous me permettez l'expression, de la philosophie de bas étage. Ça n'est pas des discours et des conversations de comptoir. Non, c'est beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus intimiste que cela. Songez bien. Cet homme qui est né sur une île, la Corse, qui a tenté sa première expédition militaire sur une île, la Maddalena, au large de Bonifacio, entre Sardaigne et Corse, qui a posé le pied comme quasiment un chef de l'État et qui a d'ailleurs pris ses premières dispositions politiques en route vers l'Égypte. Et cette île, c'est l'île de Malte, en juin 1798, qui a donné justement la liberté pleine et entière aux citoyens, les a libérés de leurs joues, les a libérés de leurs chaînes, a rendu la liberté non seulement aux hommes, mais aux femmes, pour un homme qu'on présente encore aujourd'hui, 200 ans après, comme le plus terrible de ces misogynes, pour cet homme qui, justement, a choisi de se faire couronner, on parlait de Notre-Dame, sur une île, l'île de la Cité, qui, lorsqu'il est devenu l'égal des plus grands, et quand je dis les plus grands, c'est-à-dire l'empereur de toutes les Russies, a choisi d'inviter le tsar Alexandre, le 25 juin 1807, à faire enfin la paix entre les deux blocs d'Occident et d'Orient. Où ça? Sur un fleuve, le Niémen. Et où? Sur une île provisoire, le radeau de Tilsit. Pour cet homme qui avait compris que la stratégie à adopter pour faire plier les troupes autrichiennes une seconde fois lorsqu'elles avaient été prises à revers, on le sait, à Ulm et surtout à Austerlitz, eh bien pour les faire plier une seconde fois, il fallait se préparer sur une île, l'île Lobo, au milieu du Danube. Pour cet homme qui surtout avait subi son premier exil à l'île d'Elbe pendant 9 mois et qui avait donc enfanté une nouvelle révolution sans les armes, celle des 100 jours, qui avait confié non seulement à la France son destin, mais surtout qui lui avait redonné sa beauté, sa gloire et sa fierté nationale. Pour cet homme enfin, qui pendant 7 jours se retrouve encore sur une île à l'île d'Aix, au large de Fort Boyard, et qui évoque justement avec Lascaz ce qu'il faut advenir pour l'avenir, eh bien Napoléon décide de se rendre à son plus terrible, mais son plus coriace et son plus absolu des adversaires, l'Angleterre. C'est à l'île d'Aix qu'il le fait. Quelle date? Le 14 juillet 1815. Pour toutes ces raisons, donc, Napoléon est un insulaire, et tous les éléments qui le réunissent comprennent donc cette importance, justement, de cette personnalité. Il vit comme un insulaire. Il a le sens des économies que lui inculpait sa mère Laetitia, mais aussi son père qui tient ses livres de compte avec tellement de soin. Et lorsque, au moment de la gloire éternelle, qui est celle qu'on lui imagine pour les 100 ans, pour les 1000 ans qui arrivent, on lui présente le budget de l'État, vous allez voir, ça va vous faire rêver, ça n'est plus le cas aujourd'hui, je vous rassure, on lui présente le budget de l'État, il raye avec sa plume et indique en marge, simplifier, c'est pour l'empereur. Il a le souvenir de ce qu'étaient les moments difficiles. Il a le souvenir que, justement, en Corse, on n'a pas tout ce que l'on veut à tout moment. Aujourd'hui, si vous commandez une voiture, vous ne pouvez pas avoir le dernier cri. Ben, de la même manière, il faut attendre et faire l'effort, justement, pour que les éléments se présentent à vous. Songez bien, mesdames et messieurs, pour cet homme qui a vécu aux Tuileries, qui a vécu au palais de Saint-Cloud, chez Monsieur, frère du roi, qui a vécu avec, à Malmaison avec Joséphine dans des douceurs d'un palais ou du moins d'un petit château du XVIIe siècle bien aménagé. Pour cet homme surtout, qui est entré à Milan, au Caire, à Berlin, à Varsovie, qui surtout est entré à Moscou, excuse-moi Anna, mais qui en est rentré bien sûr au bout de 35 jours. Mais cet homme qui a connu les plus beaux palais, savez-vous dans quel lit il dormait dans tous ces palais? Dans son lit de camp. Ce même lit de camp qu'il retrouve dans ses derniers jours à Sainte-Hélène. C'est en cela que c'est un insulaire. Il vit avec les éléments dont il dispose et ne dépense pas outrageusement ni de façon ostentatoire. Il a donc le sens de l'économie et le sens de la formule. Sa préparation des batailles, je vous l'ai dit, toujours sur des îles. La paix, encore sur une île. Un couronnement, encore sur une île. Et les exils, toujours sur une île. La bataille de la postérité, ce sera donc sur une île. Et cette bataille de la postérité, ce sont 600 pages qui ne représentent qu'en réalité que 90 tomes qui, mis bout à bout, représenteraient à peu près cette table qui est devant nous sur trois hauteurs successives. Cet homme qui, en un temps où il n'y a aucune télévision, aucun internet, aucune information continue, cet homme a donc décidé de faire cette bataille de la postérité en dictant ses mémoires et en donnant sa vision de l'avenir. Et que nous intime-t-il? Que nous donne-t-il comme conseils principaux? La première, l'Europe doit être unie. C'est là son avenir assuré. La seconde, c'est que les deux grandes puissances qui émergeront au XXe siècle, ce seront les États-Unis et la Russie. Et peut-être, mais on sait que le terme et la phrase est apocryphe, aurait-il imaginé, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Mais ça, c'est pour la postérité. Enfin, dernier élément, puisqu'il meurt le 5 mai 1821 et qu'on est obligé, pour bien vérifier qu'il est mort, de lui faire subir 5 autopsies, non pas une, mais 5 autopsies, avant de le voir s'enfouir définitivement, du moins le croit-on, dans cette terre de Sainte-Hélène le 9 mai 1821, eh bien cet homme, 19 ans plus tard, on décide, lorsque son retour est programmé à Paris pour être accueilli sous le dôme des Invalides, on décide de l'installer dans un tombeau de quartzite rouge venant de Carélie, de Russie donc, posé sur un socle de marbre des Pyrénées et de granit des Vosges. Et forcément, à tous ses contemporains, cela fait songer encore une fois à une île, car c'est là qu'est son repos éternel. Pour finir, mesdames et messieurs, et pour rappeler ce qu'était l'héritage de Napoléon, il me semble que dans ces temps d'héritage et dans ces temps d'hommage, 200 ans après la mort de Napoléon, comme on a tout à l'heure évoqué Dostoïevski, il fallait sans doute terminer avec des mots beaucoup plus intéressants que ceux que je vous ai prononcés ce soir, les mots de Victor Hugo. Hugo, dans Les Misérables, évoque justement Sainte-Hélène, évoque aussi surtout Waterloo, vous le savez, avec les Thénardier, et notamment Thénardier qui était là-bas sur le champ de bataille. Mais Marius est peut-être le personnage qui donne justement à voir l'avenir qui est en train de s'écrire. Il écrit « Marius n'éprouva nulle velléité de reculer. Il se tourna vers Enjolras et sa voix éclata avec une vibration qui venait du tressaillement des entrailles. À Dieu ne plaise que je diminue la France. Mais ce n'est point la diminuer que de lui amalgamer Napoléon. Expliquons-nous sur l'empereur. Où mettez-vous donc votre enthousiasme? Et qu'est-ce que vous en faites? Qui admirez-vous si vous n'admirez pas l'empereur? Et que vous faut-il de plus? Si vous ne voulez pas de ce grand homme-là, de quels grands hommes voudrez-vous? Il avait tout. Il était complet. Il avait dans son cerveau le cube des facultés humaines. Il faisait des codes comme Justinien. Il dictait comme César. Sa causerie mêlait l'éclair de Pascal au coup de foudre de Tacite. Il faisait l'histoire et l'écrivait. Ses bulletins sont des Iliades. Il combinait le chiffre de Newton avec la métaphore de Mahomet. Il laissait derrière lui, dans l'Orient, des paroles grandes comme les pyramides. À Tilsite, il enseignait la majesté aux empereurs. À l'Académie des sciences, il donnait la réplique à Laplace. Et au Conseil d'État, il tenait tête à Merlin. Il donnait une âme à la géométrie des uns et à la chicane des autres. Il était légiste avec les procureurs et sidéral avec les astronomes. Comme Cromwell, soufflant une chandelle sur deux, il s'en allait au temple marchander un gland de rideau. Il voyait tout. Il savait tout. Ce qui ne l'empêchait pas de rire d'un rire bonhomme au berceau de son petit enfant. N'est-ce pas, Laetitia? Et tout à coup, l'Europe effarée écoutait. Des armées se mettaient en marche, des parcs d'artillerie roulaient, des ponts de bateaux s'allongeaient sur les fleuves, les nuées de la cavalerie galopaient dans l'ouragan. Cris, trompettes, tremblements de trônes partout, les frontières des royaumes oscillaient sur la carte. On entendait le bruit d'un glaive surhumain qui sortait du fourreau. On le voyait, lui, se dresser debout sur l'horizon, avec un flamboiement dans la main et un resplendissement dans les yeux, déployant dans le tonnerre ses deux ailes, la grande armée et la vieille garde. Et c'était l'archange de la guerre. Le voici, mesdames et messieurs, donc l'héritage de Napoléon. C'est celui qui nous réunit 200 ans après sa mort. Je vous remercie encore de votre attention et plus présent que jamais, oui, vous avez bien entendu. Qui admirez-vous si vous n'admirez pas l'empereur? Posons-nous ce soir la question. Je vous remercie beaucoup de votre attention.